Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de la saison du Grand Oral AEF Info FNEJ. Mon nom est Sarah Pieuvesant, je suis journaliste à l'agence de presse AEF Info et Bernard Amanantsou, directeur honoraire d'HEC Paris, est à mes côtés pour mener l'entretien du jour qui va nous faire découvrir un homme et un groupe dont on entend souvent parler depuis 2-3 ans au fil des reprises et des rachats qu'il effectue dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Cet invité, c'est Stéphane de Miolis, directeur général du groupe Igensia, qui s'appelait encore il y a 2 ans le groupe IGS. Bonjour messieurs.
Bonjour Sarah.
Bonjour Sarah, bonjour Bernard.
Stéphane de Miolis, on peut dire que vous n'êtes pas un homme du sérail. Avant d'être nommé DG du groupe IGS, donc en février 2022, vous étiez directeur général compétences et formation d'Adecco Group, après avoir été successivement pilote d'avion au Canada, responsable communication et marketing de Renault F1 Team et directeur de la stratégie et du développement du groupe de presse Amaury, où vous avez notamment encadré la transformation digitale de l'équipe et du Parisien. Il y a quelques postes que j'ai zappés, hein, mais c'est les principaux que j'ai retenus. Aviation, Formule 1, presse. D'abord, est-ce qu'il y a des ponts entre ces mondes-là et celui de la formation et de l'enseignement supérieur ?
Oui, il y a des ponts. Déjà, il y a une première partie de carrière qui est plutôt axée sur des sujets de technologie. Hein, quand vous prenez l'aviation, l'automobile, la Formule 1 ou les médias, gros enjeux technologiques. Et en fait, mon constat, après avoir travaillé longtemps sur les enjeux technologiques, c'est de constater que derrière ça, il y avait un enjeu qui était plutôt autour des hommes. D'où le fait de rejoindre Adecco et d'aller vers les ressources humaines. Et puis derrière l'enjeu des hommes, j'ai découvert l'enjeu des compétences. Et c'est cet enjeu des compétences qui m'a amené à rejoindre le groupe IGS à l'époque, Igensia aujourd'hui.
C'est vrai que la transition entre Adecco et l'enseignement supérieur peut-être est plus naturelle que les postes que vous aviez occupés auparavant.
Ça reste un sujet de ressources humaines, que ce soit Adecco ou que ce soit la formation, on reste dans cet univers-là. Donc je l'ai pratiqué pendant 5 ans avant de venir l'éprouver au sein du groupe.
Racontez-nous un peu comment se passe votre arrivée en 2022 à l'IGS. Qu'est-ce qui vous attire dans cette entreprise en particulier ? Parce qu'elle est assez complexe dans sa structuration, dans son positionnement. Et elle est aussi à ce moment-là sous le feu des critiques à cause d'une gestion que nous qualifierons d'artistique de son fondateur, le fameux Roger Serre. Ce qui, d'ailleurs, vous amènera à déposer une plainte contre X à peine 1 an après votre recrutement dans le cadre de ce qui a été appelé l'affaire Delevoye.
Alors, ce qui m'a amené à rejoindre le groupe, déjà, c'est le fait qu'on vienne me chercher. Et ce qui m'a intéressé dans ce groupe, c'est après avoir fait finalement dans mon parcours professionnel 3 modalités actionnariales différentes, hein, l'actionnariat salarié, l'actionnariat familial et l'actionnariat de fonds de pension, je trouvais que rejoindre un modèle associatif non lucratif était quelque chose que je n'avais pas fait dans mon parcours et qui était intéressant. En particulier quand le sujet est un sujet de transmission et d'éducation et qu'on arrive à 50 ans et que finalement redonner ce qu'on a appris peut être un élément de motivation, c'en a été un. Et puis, comme me disait le président de l'époque, Bernard de Rey, voilà, on a construit les 50 premières années, il nous faut quelqu'un pour construire les 50 prochaines années.
En toute modestie.
Comme il avait 94 ans et qu'il en a 97 aujourd'hui, c'est difficile pour moi de lui dire que jamais je ne pourrais durer aussi longtemps, compte tenu du fait qu'il en est encore une preuve vivante, puisqu'il est encore président honoraire du groupe.
Donc, par rapport à cette structure que vous trouvez, quel diagnostic vous en faites ?
Oui, la complexité que vous mettez en avant est effectivement un constat qu'on a fait. Et d'ailleurs, dans les travaux qu'on a fait sur notre premier plan, il y avait simplifié la structuration. Il y avait 9 structures juridiques qu'on a fusionnées dans une 10e, hein, ce qui est assez rare. D'ailleurs, le commissaire aux apports a rarement vu un mouvement aussi fort pour rendre plus lisibles les structures, décharger d'ailleurs une grande partie des équipes dont le travail était tous les flux qu'il y avait entre ces structures. Donc on va dire quelque chose qui soit plus lisible, et en particulier pour nos ministères du tutelle qui avaient du mal à comprendre comment fonctionnait le groupe et comment il était structuré.
Donc maintenant il n'y a plus qu'une association, loi 1901 ?
Non, je vous ai dit qu'il y en avait 9 qu'on a fusionné dans une 10e, mais il en reste 7. C'est pour ça qu'on parle de fédération d'associations, mais les 7 sont mieux structurée, plus lisible, et elle porte un certain nombre d'activités qui sont bien, bien mieux structurées que ça l'était à l'époque.
Et citez-nous les quelques écoles qui sont, les quelques marques qui sont connues au sein de votre groupe.
Alors, la plus historique, c'est IGS qui est RH, qui est devenu Igensia RH, puisqu'on a renommé notre marque dans le cadre d'un plan qu'on avait mis en place. Donc, ça fait à peu près 18 mois qu'on a changé de nom. On était encore sur un acronyme qui datait des années 1975. On a profité de nos 50 ans pour changer de nom. Donc IGS est devenu Igentia. L'acronyme IGS, plus personne ne savait vraiment ce que c'était. Institut de gestion sociale, quand on demandait, personne ne savait. Et quand on regarde finalement l'écosystème de l'enseignement supérieur, une dizaine d'années avant, tout le monde était passé sur le fait de sortir des acronymes et de donner des vraies personnalités. C'est ce qu'on a fait. Après, on a une quinzaine d'écoles, donc je pourrais nommer l'ICD, les AM, si j'en oublie, je vais me faire gronder.
Non, mais c'est juste pour avoir une idée.
L'IMSI, l'IMIS. Enfin voilà, donc on a trois grandes catégories d'écoles. On a des écoles qui tournent autour des sciences de gestion. On a des écoles plus techniques, comme l'IPI sur école informatique. Et puis on a des écoles sectorielles, comme on peut avoir sur l'immobilier avec l'IMSI, ou sur le journalisme, maintenant avec l'EMI, alors que c'était l'ISCPA qui portait le journalisme. Donc on est en train de travailler le portefeuille de marque pour le rendre plus lisible. Ça fait partie des travaux sur notre différenciation, puisque là où on était confus dans les structures juridiques, il faut aussi que le positionnement et la lisibilité de nos marques soient plus performantes dans un marché assez saturé. Donc on a fait ce travail.
Et est-ce que Roger Serre a encore une fonction ou un rôle dans cette structure Igentia ?
Alors, Roger Serre m'a accompagné à mon arrivée. Je suis arrivé, on va dire, fin 21 et il a quitté le groupe à l'été 23. Donc, on a fait une transition ensemble. Et puis, il a abandonné ses mandats les uns après les autres. Voilà. Aujourd'hui, il nous reste une filiale qui est commune avec CED, un groupe dont il est propriétaire, qui n'est pas un modèle associatif, d'où une partie capitalistique. Et il reste actionnaire de cette dernière structure.
Alors, vous disiez à l'instant que, en fait, vous êtes une fédération d'associations. Donc, la transition est assez facile. Donc, vous êtes une organisation qui n'est pas à but lucratif.
On est régi par association loi de 1901. On n'est pas à but lucratif, on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas de capital. On a des assets immobiliers, par exemple, mais on n'a pas de capital. Ça ne nous empêche pas d'être actionnaire de structures qui ont un capital. Mais la tête, c'est une association. On ne reverse pas de dividendes et tout ce qu'on génère en excédent, on le réinvestit soit dans l'éducation, dans la pédagogie, soit dans le développement, soit dans l'inclusion qui est un élément fort pour nous. Mais nous sommes non lucratifs.
Oui, on sait en même temps que certains montages juridiques, alors vous allez nous dire si c'est votre cas ou pas, que certains montages juridiques permettent de faire remonter des loyers ou de faire des transactions à partir de redevances de marque. Est-ce que c'est votre cas ?
Il y a pu y avoir effectivement... le modèle associatif a une énorme vertu de liberté d'action. Mais il a aussi potentiellement des travers qui peuvent être générés. Donc, en tout cas, nous concernant, il n'y a plus de flux financiers qui pourraient sortir de l'écosystème. On est propriétaire de notre immobilier, donc l'argent reste au sein d'Igentia. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on ne versait pas de dividendes, ça veut dire que tout ce qu'on génère comme excédent, ça reste... propriété de l'association.
Mais il n'y a pas de propriétaire, par exemple, d'immeuble à qui vous loueriez, justement, et à qui vous verseriez des loyers ?
Non, 100% de nos bâtiments, 100% de nos bâtiments, on est propriétaire et on se loue à nous-mêmes, entre guillemets, mais c'est nos locaux. C'est-à-dire que vous preniez Paris, dans le 10e arrondissement, qui est un site historique, Lyon... où là, on est propriétaire d'une SCI à majorité, ou Toulouse, on est propriétaire, et sur Nanterre, c'est un crédit bail, donc à terme, on sera propriétaire.
D'accord.
Ce qui ne nous empêche pas d'ouvrir nos portes à d'autres écoles et de leur louer des emplacements au sein de nos locaux.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, j'ai compris que vous étiez donc une fédération d'associations. Est-ce qu'un jour, vous pourriez intéresser un fonds?
Le fonds serait intéressé par du capital, comme on n'en a pas, c'est un peu difficile d'accéder. Le fonds pourrait être intéressé parce qu'on vend notre immobilier. Le fonds pourrait être intéressé parce qu'on vend notre fonds de commerce ou on vend nos marques. Mais on est dans le cadre d'une cession d'actifs, pas dans le cadre d'une prise de contrôle.
D'accord, mais on a déjà vu des associations qui intéressaient des fonds.
Il y a eu des montages, il y a certains montages intéressants sur lesquels je me suis pensé qui effectivement, je vous rejoins, peuvent donner lieu à quelques ambiguïtés. Mais rappelez-vous, le principe d'une association, l'argent reste dans l'association. Ça veut dire que par exemple, si j'étais amené à vendre de l'immobilier ou à vendre mon fonds de commerce, je recevrais le fruit de cette vente. Et le fruit de cette vente serait dans l'association. Et on ne peut pas le sortir de l'association. Il n'y a qu'un seul acteur qui peut le sortir, c'est l'État. Quand on dissout l'association, il récupérera le fonds associatif.
Alors restons sur la dimension économique pour parler plus précisément de votre modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, par exemple sur l'ensemble de vos revenus et à quel niveau, comment vous les voyez évoluer dans les années à venir ?
Aujourd'hui, on est sur un budget de l'ordre de 150 millions d'euros sur le périmètre de l'ensemble du groupe. On est, on va dire, sur une proportion qui est de l'ordre de 70% apprentissage, 30% initial. L'apprentissage est historiquement quelque chose qui est très ancré dans le groupe. Ça fait plus de 30 ans que la maison fait de l'apprentissage. D'ailleurs, en innovant, en étant les premiers en faisant de l'apprentissage sur un bac plus 5 en tertiaire. Donc ça, on va dire que c'est le cœur historique. Et assez paradoxalement, d'ailleurs, par rapport au marché, ça fait plus de 10 ans que la maison apprend la partie académique. C'est-à-dire le fait de pouvoir soit préparer des jeunes à des diplômes, soit de diplômer par titre et grade. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans le groupe, cette partie-là. Alors effectivement, et je pense qu'on y reviendra, sur la perspective que vous ouvrez, on voit bien que le marché de l'apprentissage, il est à son fait et qu'on va rentrer dans une décroissance du marché de l'apprentissage. Décroissance qui, pour moi, aura commencé déjà sur l'année 25. Les premiers effets sont visibles et donc on va quitter cet objectif qui avait été fixé, je crois, par le président de la République, si ma mémoire est bonne, le 26 septembre 2022, en Conseil des ministres, où il annonçait qu'il fallait aller vers 1 million d'apprentis. Oui. Donc nous, on va devoir rééquilibrer finalement entre les acteurs qui payent.
Si une de vos institutions se met à perdre de l'argent, vous en faites quoi ?
Quand vous dites une de nos institutions...
Un de vos établissements, je ne sais pas comment vous les qualifiez.
C'est pour ça qu'on parlait de fédération, c'est-à-dire qu'on a au sein de la fédération, on va dire, un système de compensation. Toutes les écoles ne gagnent pas d'argent. C'est clair, mais il y a des écoles qui ont un intérêt parce qu'elles mènent à l'emploi de façon significative, et donc elles peuvent être compensées au titre du groupe par d'autres écoles.
Ça ne peut pas arriver que vous déposiez pour une association, c'est compliqué, mais vous pouvez être en cessation de paiement quelque part ou pas ?
Oui, on pourrait être en cessation de paiement, mais ce n'est pas du tout la tendance. Puis si jamais on avait le type de difficulté que vous décrivez, comme on a à peu près entre 200 et 300 millions d'immobilier, on se poserait la question de systèmes comme de la fiducie, de l'hypothèque, voire de la cession. Effectivement, nous, on n'a pas un fonds qui peut remettre de l'argent dans notre écosystème en cas de difficulté, mais on a des assets et un patrimoine qui permettent de sécuriser la structure.
Alors, vous l'avez dit, vous êtes très exposé à l'apprentissage. Je me souviens avoir participé à l'inauguration de ce magnifique bâtiment que vous avez à Nanterre, qui s'appelle Igentia Alternance, qui fait une surface de 10 500 m². C'était en janvier de cette année, l'inauguration, donc c'est tout récent. Et vous parliez à l'époque d'accueillir 3000 apprentis d'ici 2027. Alors j'imagine que ces plans-là, ils sont revus à la baisse forcément par rapport aux économies qu'on est en train d'essayer de rechercher partout. Vous vouliez, à l'époque, en faire le plus grand campus en apprentissage tertiaire de France. Donc, c'était quand même très ambitieux. Comment votre stratégie est renouvelée par rapport à la nouvelle situation qu'on connaît fin 2025 ? Est-ce que vous êtes inquiet pour la pérennité de ce modèle ?
Alors, déjà, on disait 3000 en 2027. On fait la rentrée de septembre 25, on est à 2300. Je pense que la trajectoire, on est dessus. À 3000, effectivement, on est le plus grand centre d'apprentissage de France. Et on reste convaincu, et ce modèle-là existe depuis longtemps, que l'apprentissage va perdurer. Ce qui va se passer, c'est que le marché va se contracter et le nombre d'acteurs va diminuer. Bon. Et quand vous faites référence à ce bâtiment, il est vrai que quand on a une politique de l'État qui tend vers 1 million d'apprentis, nous qui avons ce qu'on appelle une mission d'intérêt général, on se met dans cette politique-là et il y a quelques années, un peu plus de 4 ans, on prend la décision d'accompagner ça en investissant dans ce nouveau bâtiment. Bon, la réglementation immobilière, un petit sujet des Jeux Olympiques, fait que le bâtiment finit par ouvrir, on va dire, en janvier 25. Et là, effectivement, on est confronté à un État qui nous dit, la perspective financière de l'État est telle qu'on ne sait pas trop comment on va finalement aborder ce sujet de l'apprentissage. Et là, je voudrais peut-être rappeler que le financement de l'apprentissage, en fait, il y a 4 sujets. Il y a un premier sujet qui est la source de financement par les entreprises, la CUFPA, qui finance par un prélèvement sur la masse salariale le financement de l'apprentissage. Et c'est pas si récent ça, puisqu'on a fêté cette année, le 13 juillet 1925, qui était le premier gouvernement qui a mis ça en place, qui a considéré que l'apprentissage était un sujet d'intérêt public et qui en a construit le financement. Donc ça, c'est une première partie, elle existe et elle est solide. Bon. Quand la loi de 2018 a été mise en place, personne n'était capable de présager du succès que l'on a aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un succès sur le volume, et un succès sur le rapport à l'apprentissage de la population française, qui fait que c'est plus la voie de garage qu'on avait il y a quelques années, c'est devenu quelque chose d'honorable. Et on se rapprochait à 1 million, on était assez proche du modèle allemand en termes de proportion d'une classe de jeunes, enfin d'une classe d'âge de jeunes, et du modèle suisse.
Bon. Et finalement, on ne va pas l'atteindre.
Ben, en tout cas, le million, on l'a atteint.
On y est déjà ?
Oui, le million, on l'a passé. Okay. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que c'était le point le plus haut. Donc, on n'est plus sur une logique de trajectoire. Donc, nous, quand on nous donne une trajectoire et qu'il y a une politique publique qui l'accompagne, on se met dedans et effectivement, on ouvre un bâtiment, on investit 70 millions pour accompagner cela.
Et vous vous sentez un peu floué à la fin ?
Non, je ne dirais pas qu'on se sent floué, parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, et c'est là peut-être un des paradoxes, c'est qu'il n'y a pas de décision prise. On parle de décisions de la politique publique qui vont avoir des impacts dans 3 mois, on ne les connaît pas aujourd'hui. Je vous disais, premier élément, les entreprises. Le deuxième élément de financement, c'est le soutien à travers des primes aux apprentis pour les entreprises. Et quand vous regardez un peu le marché, vous avez un apprenti sur deux qui est dans une entreprise de moins de 10 salariés. Et 8 apprentis sur 10 qui est dans une entreprise de moins de 250. Donc là, il y a des primes. Politique de l'État d'accompagner pour ces entreprises-là la capacité à prendre un apprenti. Donc ça, c'est un financement porté par l'État. Ensuite, il y a la troisième dimension, qui est qu'aujourd'hui, il y a un tel succès, c'est que France Compétences est en déficit. Donc l'État compense. Et il y a une quatrième dimension, qu'on oublie souvent et qui d'ailleurs est un sujet politique en ce moment, qui est de dire qu'un jeune qui est en apprentissage, il ne cotise pas. Il a tous les droits sociaux, mais il ne cotise pas. Ça veut dire que ce jeune-là, dans 40 ans, il aura des droits à la retraite qu'il a acquis aujourd'hui sans cotiser. Voilà le panorama. Et donc l'État se pose la question de dire comment je fais, compte tenu de ma contrainte, pour accompagner ça.
Et vous, comment vous revoyez votre copie, d'une certaine manière, à Egencia ?
Ben, nous, notre copie, comme je vous disais tout à l'heure, on a une proportion de clients, entre guillemets, payants, l'entreprise en étant un, et puis le financement par l'apprentissage. Mais le modèle du groupe a été, on va dire historiquement, plus sur l'apprentissage qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que notre proportion reste importante.
70%.
Mais, 70%, mais on a ouvert le fait d'avoir des grades, des visas, des étudiants qui finalement payent leurs études. Et puis on a aussi le fait d'avoir des internationaux de plus en plus nombreux.
Donc vous allez aller davantage vers ce modèle.
Donc voilà. Donc comment nous on va rééquilibrer ? Ben, on rééquilibre en ayant des formations payantes. Et les nouvelles activités qui ont rejoint le groupe, je pense à l'ISMM, je pense à l'EMI, je pense au CNVA, toutes ces activités-là sont des activités qui ne dépendent pas de politique publique. Voilà. Donc petit à petit, on tend vers un rééquilibre, voilà. Mais on reste convaincu que l'apprentissage restera un système. Ça fait longtemps qu'il existe, il a sa vertu de mise à l'emploi. Il y a des jeunes qui en ont besoin, parce que tout le monde ne peut pas se payer des études. Voilà. Donc, par contre, le marché va baisser, le nombre d'acteurs va baisser parce que la régulation va amener à quelque chose qui va être assaini, on peut le dire comme ça.
On va en parler de la régulation.
Et je pense qu'on parlera de la loi 1762 là-dessus.
Tout à fait. Juste un point sur l'apprentissage. Le patron de Kedge Business School, Alexandre de Navaille, a pris position récemment en faveur d'une participation des apprentis eux-mêmes au financement de leur apprentissage. Donc il donne l'exemple, une formation qui coûte 15 000 euros, l'apprenti pourrait payer 2 ou 3 000 euros de sa poche, sauf s'il est boursier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il disait que c'est la seule voie de sortie pour sauver la réforme de l'apprentissage.
Alors, je ne sais pas si c'est la seule voie possible. En tout cas, j'apprécie beaucoup Alexandre et je trouve que le sujet qu'il met sur la table se défend, en particulier parce que quand on doit repenser le système de l'apprentissage, il faut qu'on aille avec une approche de qualité supérieure, on monte les standards, donc les acteurs qui aujourd'hui ne sont pas dans les standards ne doivent pas rester. Il y a aussi la qualité des filières, c'est-à-dire qu'il faut que l'État, à un moment donné, se positionne sur les compétences dont l'État a besoin et qui flèche peut-être plus sur les éléments stratégiques pour l'État. Et puis il y a le troisième point, qui est celui que vous apportez, c'est le sujet de la qualité des apprentis. Qualité dans le sens où on n'a pas tous le même profil, et les apprentis n'ont pas tous le même profil. Un jeune qui ne peut pas se payer d'études, qui est en échec scolaire, nous on le démontre, l'apprentissage est un escalier, je préfère escalier social pour lui, qui est fantastique. Parce qu'il faut quand même faire un effort. Par contre, il y a l'étudiant qui pourrait se payer ses études et qui, à un moment donné, trouve que finalement, il peut avoir de l'argent de poche grâce à l'apprentissage.
Donc là, vous êtes ouvert à les faire payer.
Et je vais vous le dire, Sarah, d'autant plus facilement que je suis père de 4 enfants et que j'ai un enfant dans ce cas-là qui m'a dit « Écoute, papa, moi, j'étais dans une grande école, tu la payais, grâce à l'apprentissage, je ne vais plus la payer. » Je dis « Mais il n'y a pas de raison. » D'ici, ça te coûtera moins cher. Je lui dis oui, mais je pense que ce n'est pas le rôle de l'apprentissage. Mmh. Et que le rôle de l'apprentissage, c'est qu'à un moment donné, ça aide des gens qui en ont vraiment besoin.
Donc vous voulez dire le réserver à ceux qui en ont besoin?
Non,
ou
je...
faire payer ceux
non,
qui peuvent le payer?
Je rebondissais sur ce que disait Alexandre en disant est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une participation de l'étudiant? Et moi, ce que je dis, c'est qu'il y a certains cas où on peut se poser la question que quand les parents ont les moyens de financer des études, est-ce que c'est à l'apprentissage de le faire? C'est mon cas, c'est une question que je me suis posée, et on pourrait aussi aller sur les sujets d'optimisation fiscale dans ce cadre-là.
Alors, on a déjà abordé la question de la régulation, qui fait beaucoup parler dans les médias et autour des médias ces derniers mois. Bon, cette fameuse loi sur la régulation de l'enseignement supérieur privé, on peut penser qu'elle va finir par voir le jour, puisque le ministre qui est en charge de cette loi vient d'être confirmé comme ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'espace. Alors, pour vous, cette loi, en quoi elle va vous impacter ou ne pas vous impacter?
Déjà, il y a la... peut-être revenir à la loi précédente, puisqu'on est quand même dans un système où généralement une loi remplace une autre. Je pense à la loi Fiorano de 2013, qui déjà régulait un certain nombre de choses. Depuis cette loi de 2013, il y a eu la loi sur l'apprentissage et le marché a été, on va dire, changé dans son dimensionnement et dans ses acteurs. Et donc l'État se pose la question de réguler et c'est une, à mon avis, c'est un bon sujet et il faut qu'il aboutisse. Et effectivement, que la continuité du ministre est une bonne et de bon augure pour que cette loi soit votée. Loi qui a été travaillée à la fois par le ministère du Travail et à la fois par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui sont deux des trois ministères de tutelle que nous avons. On en a un troisième qui est l'Éducation nationale. Et si on regarde finalement les grands axes de cette loi. Il y a une première dimension qui va sur le sujet de la régulation par la qualité et la transparence. C'est nécessaire, c'est indispensable pour les familles. Il y a une deuxième dimension qui est la protection des droits des étudiants. Aujourd'hui, il y a quand même certaines pratiques dans le secteur de paiement des étudiants qui ne sont pas acceptables.
En particulier, des étudiants ?
On fait payer des cautions à des étudiants sur l'apprentissage, par exemple. Je crois que vous avez fait référence à ces sujets-là. Et ensuite, il y a aussi... renforcer le service public de la partie enseignement supérieur. Donc il y a une forme d'équilibre sur le texte que je trouve intéressante. Voilà. Après, le texte, il est intéressant, mais ce qui va être surtout important, c'est la mise en œuvre du texte.
Celle-là, on l'a déjà entendue sur plusieurs textes.
Non, mais bah oui, et c'est le décret d'application qui est important.
Oui, bien
parce
sûr.
Que quand on parle, par exemple, de l'agrément ou du partenaire, quels sont les critères de l'agrément et quels sont les critères du partenaire? Et c'est là où va se jouer... la réalité de la plateforme, de la réforme et de la loi. C'est là où ça va jouer.
D'accord.
Et donc, alors, il faut qu'à mon avis, tous les acteurs se mettent autour de la table pour être sûr d'avoir quelque chose qui, administrativement, soit peut-être bien pensé, mais opérationnellement, puisse être bien mis en œuvre par des acteurs comme le nôtre.
Alors, on pourrait continuer très longtemps. Je vais revenir à votre stratégie. Comme Sarah le disait en introduction, vous avez acquis plusieurs institutions, enfin, ça fait même l'objet de plusieurs articles dans la presse, c'est même assez impressionnant. Vous en êtes où? Est-ce que vous allez continuer à faire des acquisitions d'institutions, d'écoles? Enfin, en gros, c'est quoi votre stratégie d'acquisition pour les années à venir?
Alors, déjà, il faut...
Ou de revanche, j'ose pas formuler l'hypothèse.
Non, on n'est pas... Enfin, dites-moi, entre... vous avez vraiment envie qu'on n'aille pas bien, hein?
Non, pas du tout. J'ai envie que vous optimisiez votre portefeuille.
C'est un prof de stratégie, à la base.
Non, mais j'ai eu aussi un très bon prof de stratégie, un certain Jean-Pierre Elfer, donc, qui m'a bien...
Que l'on
bien,
salue.
Voilà, qui m'a beaucoup appris sur le sujet de la stratégie. Donc déjà, reprenons les écoles. Je vous rappelle, on a un modèle associatif. Et quand c'est une association, on peut les fusionner. C'est le cas, par exemple, de Montessori qui était en difficulté.
C'est un bon exemple. Montessori, ça n'a pas grand-chose à voir avec une école de gestion. Pourquoi vous avez repris Montessori? Jean-Pierre Elfer, que vous citiez, a dû vous expliquer qu'il fallait se trouver des synergies quand on faisait des acquisitions.
Alors, je ne sais pas pourquoi vous y mettez autant de distance. Hein. L'Institut supérieur Maria Montessori, c'est une école qui forme les adultes sur l'éducation des enfants. Déjà, ce n'est pas si éloigné de ce qu'on fait, puisqu'on a une école qui s'appelle Pédagogia, qui est une école de pédagogie pour adultes. Donc, entre une école de pédagogie pour adultes et une autre école de pédagogie pour adultes, là, je pense que Jean-Pierre serait content, il y a de la synergie possible. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, là, il est beaucoup plus stratégique, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on pourrait envisager, c'est ce que nous, on met sur la table, de repenser la façon dont on fait notre pédagogie. Qu'on pourrait appeler une pédagogie d'impact, et je pourrais rentrer dans le détail, c'est la composante de nouveaux cycles stratégiques. Et quand le docteur Montessori, puisque c'est une approche scientifique de la pédagogie, a fait ses travaux, il l'a fait de la naissance jusqu'à 24 ans. Nous, on a le sujet 18-24, donc on travaille avec eux. Qu'est-ce que veut dire la pédagogie Montessori appliquée sur des jeunes entre 18 et 24 ans? Donc, un, c'est pas si éloigné de ce qu'on fait, et deux, c'est une composante de notre stratégie Bernard.
Juste sur la dernière question, parce qu'on arrive à la fin du podcast, la stratégie de rachat pour les 5 ans à venir, vous l'avez déjà en tête? Vous savez, vous avez des cibles?
Non, on n'a pas de cible. Ce qu'on fait, c'est qu'on est plusieurs acteurs associatifs à parler les uns avec les autres pour voir comment, dans cette fédération, on pourrait avoir une fédération à échelle plus large. On voit bien aujourd'hui qu'on est face à une concentration du marché et qu'on a un enjeu de taille critique. C'est un modèle de frais fixes. Plus vous avez des étudiants dans vos écoles, plus vous arrivez à couvrir vos frais fixes. Donc, on est plutôt dans ce type de réflexion.
Donc, on a dans ce monde plusieurs écoles sous modèle associatif, voilà,
qui rejoindraient ce qu'on a déjà commencé à faire. Et on pourrait aller un peu plus loin sur cette stratégie-là. Donc, ce n'est pas des mouvements capitalistiques, puisqu'il n'y a pas de capital. C'est des mouvements de gouvernance et de rapprochement. Et quand deux associations fusionnent, le contenu d'une association peut rentrer dans une autre association.
Merci beaucoup, Stéphane de Miolis. Malheureusement, on aurait encore plein de questions à vous poser, mais c'est déjà la fin. Alors, on a parlé de beaucoup de sujets, mais pas encore de culture, pas trop. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Quel conseil de lecture aimeriez-vous donner à nos auditeurs? Un ouvrage qui vous aurait marqué, inspiré?
Bon, je vais peut-être prendre à contre-pied ce qui se fait d'habitude, mais je vais parler du dernier ouvrage qui m'a été offert par mes enfants, qui s'appelle Le poulet voyageur de Mireille Sanchez, qui est un livre qui fait 1000 pages et qui est spécialisé sur la cuisine du poulet, puisque je cuisine tous les dimanches. Et donc, ils m'ont donné une perspective et ils m'ont dit, voilà, tu en as pour une bonne cinquantaine d'années et voilà de quoi te nourrir pour nous trouver des recettes le dimanche.
Et il est bon.
Le livre?
Oui.
Oui.
Le poulet aussi, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Demiolis, directeur général du groupe Igensia, d'être passé au micro du studio Module aujourd'hui. Merci aussi à vous, cher Bernard Ramanantsou. On se retrouve comme d'habitude le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée issue de l'univers des sciences de gestion. Et d'ici là, portez-vous bien.